Bien, les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
La cour de récréation.
Vous allez, sur ce dessin, schématiser, dessiner votre cour de récréation que vous avez aujourd'hui en y mettant des espaces que vous repérez. Et je vais vous demander, sur ce plan, de vous mettre dans cette cour de récréation, vous positionner là où vous êtes le plus souvent. Et avec qui vous êtes? Si vous êtes avec des filles, une fille, deux filles, trois filles, un garçon, hein, vous essayez de m'expliquer ça dans la récréation.
Si on vous demandait de dessiner une carte mentale de la cour de récré, vous figureriez sans doute un lieu clos de murs, un préau, des toilettes, très importantes les toilettes, et bien sûr des arbres, sans doute des marronniers. En somme, un espace qui nous paraît encore familier, même si nous ne l'avons pas connu, peuplé de souvenirs refabriqués par les quelques 50 films français qui en traitent. Mais la cour, elle est habitée par des enfants d'aujourd'hui. Or, la moitié, au moins, de la vie de l'enfant, c'est le jeu. Son travail, son métier, c'est le jeu. L'emploi du temps scolaire contrariant cette disposition naturelle, la récréation lui permet de la retrouver et il s'en donne à cœur et à corps joie. Le personnel éducatif qui a toujours été tenté de considérer la récréation comme un répit dans son difficile travail est bien obligé de la surveiller tant elle est imprévisible. Et chez les parents, elle suscite carrément l'inquiétude. Dans la cour, les enfants doivent trouver leur place eux-mêmes, sans protection, et cette place n'est jamais garantie. Sans parler des dangers physiques. Le Parisien citait récemment ce courrier de mère d'élève. « Mon fils s'est écorché le genou, vous n'avez jamais songé à mettre de la moquette partout ?» Et non. La cour fut souvent faite de sable, comme l'arène, ou d'herbe, comme les terrains vagues, et maintenant de bitume, comme la rue. La ville de Paris a bien inventé un service dit de résilience territoriale qui met au point des prototypes de cours oasis. On parle aussi d'un code de la cour. On peut rêver, parce que lorsque les enfants vont dans la cour, ils découvrent la force des sentiments, les risques de la servitude et aussi les possibilités d'établir de l'égalité. C'est ainsi.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Julie Delalande, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit nombre d'articles, plusieurs livres sur la cour de récréation, dont un qui portait le titre « La récré expliquée aux parents ». Parce que votre métier, officiellement, c'est anthropologue de l'enfance. Mais enfin, ça veut dire que vous expliquez les enfants à la société, quoi.
Voilà, plus particulièrement, j'enseigne en sciences de l'éducation. Voilà, je suis professeur à l'université de Caen, donc... Entre autres, oui, c'est ça. Mon idée, c'est de leur montrer que les enfants ne sont pas seulement des êtres à éduquer, en tant que futurs éducateurs qu'ils sont, mais qu'ils ont aussi leur vie sociale entre eux.
Un petit peu d'histoire quand même, la récréation. Alors évidemment, elle est pensée, je sais pas, dès les collèges jésuites qui disent qu'il faut un répit dans le temps de formation intellectuelle, mais on va surtout parler de l'école primaire, élémentaire. À partir de quand apparaît-elle dans l'école primaire officiellement ?
Alors, en fait, jusqu'en 1850, il n'y avait pas souvent de cours de récréation. Hein, moi, je ne suis pas historienne, mais Anne-Marie Châtelet, qui travaille là-dessus, hein, nous rappelle cela dans un ouvrage dirigé par Caroline Barrera, la cour de récréation. Et elle nous dit qu'il y avait, la classe et puis le jardin autour de cette classe qui servait d'espace. Hein, mais finalement, ensuite, petit à petit, il va y avoir la mise en place de cours de récréation dans les années 1880, avec certaines normes qui vont se mettre en place.
Oui, on voit ça dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, un préau.
C'est ça.
4 mètres de hauteur.
Un préau, un sol sablé, des bancs, une fontaine, et des WC, comme vous le rappeliez tout à l'heure.
Il y a eu des études sur les WC dans les écoles.
Oui, il y en a même actuellement, effectivement, par des collègues sociologues qui travaillent sur cet espace tout à fait intéressant pour la...
Mais vous me parlez de sable, et il y a des parents qui réclament de la moquette. Le sable, c'est dangereux maintenant. Vous considérez comme tel.
Le sable, c'est pas hygiénique. Il peut y avoir effectivement des chats qui viennent faire leurs besoins, etc. Ça pose des problèmes. C'est toujours la question de entre le plaisir enfantin et les normes d'hygiène notamment, qu'est-ce qu'on choisit ?
Alors la ville de Paris a inventé dans son jargon un service de résilience territoriale qui propose à l'essai 3 cours de récréation dans des écoles qui ont été réaménagées cet été, appelées Oasis. Et là, c'est du béton, du béton qui permet quand même d'absorber l'eau. Alors ça, c'est très important aussi. Faut pas d'eau, faut pas de boue.
C'est dommage parce que les enfants aiment beaucoup quand il vient de pleuvoir et qu'il y a des petites flaques d'eau et qu'on peut s'imaginer plein d'histoires avec ces petites flaques d'eau. Mais voilà, chacun ses critères. Hein. Effectivement, on est ici sur le fait aussi que les parents aiment bien récupérer leurs enfants relativement propres et secs.
Réglementation des zones dans les cours de récréation.
Après de longs mois de chantier, les élèves de l'école communale de Wanze-Centre ont retrouvé une toute nouvelle cour de récré, avec une conception innovante de l'espace. Différentes zones ont été définies en fonction des activités qui y sont pratiquées.
Il y a une zone rouge, là les enfants peuvent jouer au ballon et courir. Il y a une zone bleue, et dans cet espace, les enfants jouent avec des jeux tracés au sol, ou des cordes à sauter, ou des élastiques, enfin, des jeux calmes.
À cela s'ajoute une zone verte pour la piste d'athlétisme, où l'on peut courir, et une zone jaune pour la détente et le repos. Les espaces sont bien délimités pour éviter tout conflit.
Moi, je préfère la zone rouge.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a du foot et du basket.
Ça m'énerve parce que les garçons à l'école nous interdisent de jouer au foot. Et tout ça, et puis même de jouer à des jeux avec les ballons. Mais sous les préaux, les grands, ils nous interdisent de jouer, donc là, on ne peut pas jouer. Bon, bien sûr, les filles, parce que les garçons, ils ont le droit de jouer au foot, donc... Là, il y a des buissons, on n'a pas le droit d'aller. Là, il y a le portail des petits, il ne faut pas trop s'en approcher, parce que... Voilà, donc cette zone, on n'a pas trop le droit. Bon, là, on a le droit, mais c'est pas pratique, parce qu'on n'a que ça, donc... Je colorie, je vais faire des traits comme ça pour là où on peut.
Alors là où on peut finalement, ce sont les espaces restreints, documentaire de Léonore Gilbert. Les enfants, ils utilisent les interstices quand même. Ils arrivent bien à passer au-dessus des buissons ou en dessous.
C'est ça. Bah dans ce petit... Dans ce petit témoignage de cet enfant, on voit bien comment il y a deux choses. Il y a les contraintes fixées par les adultes, on l'avait aussi dans le témoignage précédent avec les zones de couleur, et puis il y a les contraintes que les enfants s'imposent entre eux, hein, c'est-à-dire les garçons imposent des contraintes aux filles, éventuellement réciproquement quand même, et puis les grands imposent des contraintes aux petits. Hein, donc l'espace, il est social...
Comment vous le pénétrez, cet espace ? Racontez-nous, parce que vous êtes grande, il faut que vous vous asseyez, les enfants doivent se dire c'est qui
cette dame ?
Elle vient surveiller, c'est une indicatrice.
Alors, bon, bah déjà, le premier obstacle, c'est les adultes. Hein, donc, ouais, il faut déjà obtenir les autorisations, etc. etc.
Et c'est de plus en plus facile, bien sûr.
Évidemment, sans doute. Oui. Cela dit, si déjà je dis que je ne viens pas faire de film, que je ne prends pas d'image, c'est surtout encore le droit à l'image qui pose problème. Donc déjà, sans caméra, c'est un petit peu plus facile. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je m'y prends avec les enfants. Hein, et je dirais que là, moi, j'utilise les méthodes de ma discipline, l'ethnographie, l'ethnologie. Et par conséquent, la méthode, c'est l'immersion et c'est le temps long. Donc je m'installe quelque part, évidemment ils viennent me voir, t'es qui, t'es une maîtresse, une maman, ouais. Donc une fois que je suis ni maîtresse ni maman, eh bien, je leur dis que je suis, enfin même si je peux être maman d'autre part, mais pas à ce titre ici, je leur dis que je suis ethnologue. Ça tombe bien, ils ne connaissent pas ce mot, donc je leur propose une nouvelle relation avec eux.
Méthode comparable à celle qu'a utilisée pour un film fameux, le seul documentaire complet sur... une cour de récréation, Claire Simon, qui avait quand même l'inconvénient d'avoir une caméra, de devoir refaire faire peut-être les dialogues, parce que dans le bruit général d'une cour de récréation, il est difficile d'isoler, d'individualiser les discussions et les jeux.
Arrêtez-vous là !
Non, non, moi c'est le coiffeur. Toi tu restes là, et toi on va te coiffer. Toi tu restes là. Alors, à toi. Toi, tu vas là-bas. Tu te mets là.
Moi, je reste là.
Voilà, tu t'assieds. Là. Parce que moi, je suis un coiffeur. Et je suis un papa. À vous, à toi et à toi.
Vous êtes en prison. Vous êtes en prison.
Non, non, t'es le coiffeur. Tu vas à côté de Cigar.
T'es en prison, toi.
D'où il apparaît dans ce jeu avec des enfants de 4 ans, 4 ans et demi, un peut-être plus grand qui est le leader, qui a le chef, il y a le prisonnier, il y a le libérateur, tututut.
Oui, bah, j'ai eu la chance en plus de rencontrer Claire Simon, on avait, donc, je l'avais interviewée, on avait comparé finalement pour un article qu'on avait publié ensemble dans la revue de mon laboratoire, les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle.
Ça, vous arrivez à placer tous vos titres, c'est formidable.
Ah,
continuez.
Ah, vous voyez, quand même. Je fais honneur aussi à ma revue.
Et ah oui, tous les interstices, vous les utilisez.
Exactement.
Alors donc.
Et donc, je l'avais rencontré et on avait comparé nos manières d'approcher de nous représenter les enfants. Hein. Donc, c'est vrai que ce qui l'intéressait, c'était vraiment de montrer comment on avait la cour était pour elle comme un théâtre, avec une mise en scène par les enfants, etc. Et de mon côté, c'est vrai qu'à travers cette scène que vous venez de nous faire écouter, hein, on entend vraiment la force des jeux de fiction chez les enfants, qui, quand ils sont dans leur jeu, ils y sont absolument.
Alors, ils imaginent mille jeux, ils passent de l'un à l'autre. Et ce qui est très intéressant dans vos études, c'est de voir la pérennité du patrimoine enfantin.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais il y a aussi énormément de choses qui perdurent, et c'est étonnant.
Mais comment ?
Eh bien, comment ? Mais grâce à cette culture enfantine qui se transmet de génération en génération, entre générations. Finalement, on parle beaucoup de culture des adultes, de culture, etc., de tel ou tel pays, région, etc., mais on a aussi des cultures d'âge, hein, et donc cette idée de culture enfantine, c'est justement le fait qu'on va, entre enfants, se transmettre...
Par l'imitation
Par l'imitation, oui, par les faits, par le jeu commun, par l'observation. Les petits observent les grands dans la cour d'école maternelle, dans la cour d'école élémentaire. Et ils regardent comment est-ce qu'on fait du sable doux ou d'autres choses passionnantes.
Oui, mais le sable doux, c'est bon pour les billes. Mais les billes, ça se transmet ?
Non, le sable doux, ce n'est pas fait pour les billes. On voit que vous n'êtes pas allé observer les cours de récréation.
On le mouille.
Ah oui, mais non, dans le sable doux, non, le sable doux, c'est une technique pour affiner ce sable et pour ensuite pouvoir en faire des gâteaux au chocolat ou d'autres choses. On est plutôt dans les pratiques familiales de préparation culinaire. Hein, alors que les billes supposent un sable plus dur pour pouvoir justement avoir une sorte de piste.
Mais hein, pourquoi donc, ça dure les billes ?
Bah pourquoi ça dure ? Alors, parce qu'on est sur quelque chose d'assez simple que les enfants peuvent s'approprier. Et ça, c'est la recette numéro un. Ne le disons pas trop fort, parce qu'ensuite, tous les fabricants de jeux vont avoir les bonnes recettes. Mais voilà, il s'agit bien... C'est d'ailleurs pour ça qu'ils continuent toujours à fabriquer des billes. Hein. C'est parce qu'on est face à des valeurs sûres, parce qu'on peut en faire, créer toutes les règles qu'on veut, finalement, au sein d'un groupe de...
Les nouveaux actionnaires qui ont repris Carambar le savent parfaitement, qui disent c'est une valeur sûre, c'est une valeur nationale, il faut le refabriquer comme naguère et on l'échangera dans les cours de récréation. On échange bien des Carambar dans les cours de récréation.
Oui, il y avait même eu un moment des Carambar destinés aux adultes, vous vous souvenez pas, il y a quelques années. Enfin bref.
Et l'espace entre les garçons et les filles. Alors on dit que les garçons sont au milieu, enfin... Ceux qui sont très actifs au milieu, ils mettent aussi à l'écart d'autres garçons plus timides ou qui cherchent à discuter. Et puis les filles, dans des coins, discutant. Et alors discutant, évidemment, de choses sexuelles.
Alors ? Bah rien. Je suis allée chez lui, enfin, chez ses parents. On est monté dans sa chambre et il m'a embrassée sur la bouche. La bouche ouverte ?
Bah ouais. C'est dégueulasse.
C'est comme ça, hein ? Il m'a demandé de me déshabiller.
Et tu t'es déshabillée devant lui?
Ouais. Et il m'a dit de me coucher sur le lit, toute nue.
Ça, c'est pas vrai.
Je jure que c'est vrai.
Et alors?
Quoi et alors?
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Bah rien. Il s'est allongé à côté de moi. Il a lu un Spirou.
C'est tout?
Bah ouais.
On marche?
Ouais. T'as jamais remarqué les garçons sur la plage? Des fois, ils ont leur maillot qui fait comme une bosse.
Non, j'ai jamais fait attention.
Eh ben, tu regarderas. Ça fait comme une bosse. Eh ben, ils appellent ça bandé.
Ah bon?
Ouais. Eh ben, quand un garçon couche avec une fille, ça peut devenir très long. Il y en a même qui restent comme ça et qui peuvent plus sortir du tout.
Mais comment long? Très long?
Bah, je sais pas, moi. Je crois que ça peut faire 2 mètres au moins.
Alors Audrey Ripoux, notre réalisatrice, me dit, on voit bien que tu vas pas dans les cours de récréation, c'est des plus grandes là. Oui, c'est extrait de Diabolomante. Mais Diabolomante, c'est un très vieux film, ça a dû évoluer aussi dans les classes du primaire. On pourrait entendre ça?
Oh, peut-être pas exactement comme ça, hein, le vocabulaire a changé, etc. Mais je dirais que l'attrait pour le sexe opposé, les questions qu'on se pose à ce propos, etc. Et puis bon, bah oui, on sait aussi que les enfants regardent la télévision, regardent des choses sur Internet qui ne leur sont pas forcément destinées. Donc oui, il y a aussi peut-être un niveau d'information et de connaissance qui évolue de fil en génération.
Alors ça a été un immense débat politique dans beaucoup de villages, notamment sous la Troisième République, où la mixité s'est appliquée au-dessous de 35 élèves dans les communes de moins de 500 habitants. Mais alors comment faire? Les maires étaient souvent contre, le curé était contre, on mettait des claire-voies pour séparer les deux sexes, mais que faire avec les WC? Le Puy du Fou a trouvé une bien meilleure solution, il crée une académie, ça veut dire collège, et c'est pas mixte. Où on en est d'ailleurs de la mixité dans les cours de récréation? Est-ce que de nouveau ça fait difficulté?
Bah, on sait qu'on se pose des questions sur l'enseignement. Dans certains enseignements, on peut, en particulier dans les activités physiques et sportives, parfois trouver des enseignants qui souhaiteraient séparer filles et garçons. On a entendu tout à l'heure hein, les filles qui parlaient du foot, etc. Bon. Donc, y a toujours cette polémique qui est sous-jacente, c'est sûr. Mais on n'est pas là dans les cours... dans les moments récréatifs, hein, qui, eux, sont bien partagés.
Les activités physiques. Alors la bagarre, peut-être féminine?
La bagarre, elle peut être mixte, elle peut être féminine. Elle se retrouve effectivement dans toutes les configurations possibles, oui, tout à fait.
Racontez une bagarre féminine, alors comment ça peut prendre?
Alors c'est vrai qu'on est un peu dans les stéréotypes, mais malheureusement ça correspond à la réalité, c'est-à-dire qu'on a du côté des filles quelque chose qui est souvent un peu plus verbal, c'est-à-dire une bagarre de mots, hein, même s'il peut y avoir aussi une bagarre physique, alors que jouer à la bagarre et se bagarrer côté garçon, là on est bien dans le physique, hein, donc... j'allais dire, oui, c'est un peu les stéréotypes des filles qui papotent et qui se tirent les cheveux et qui, voilà, et des garçons qui, eux, sont plus dans le corps à corps.
J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi, je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tape ta gueule.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Je peux pas faire attention?
Excusez-moi, monsieur, je vous avais pas vu.
C'est pas une raison pour me marcher sur les pieds. On regarde devant soi quand on court. On regarde devant soi, tu entends?
Oui, monsieur, je suis pas sourd.
Qu'est-ce que c'est? Tu réponds? Tu tiens tête, sale petite crâne, là. Je te prendrai la politesse, moi, tu entends? Je te la prendrai. Tu es ici pour obéir et pas pour répondre. J'entends pour obéir.
Ça vous a un côté séquence du jeune spectateur d'autrefois, cette émission sur la cour de récréation où on retrouve des films bien connus, ici Les Disparus de Saint-Agile. Si vous nous parliez, Julie Delalande, de l'inquiétude des enseignants ou des personnels éducatifs en général devant la cour de récréation, vous dit-on, on forme pas les enseignants à ce sujet. Ils aimeraient bien être en retrait pendant la cour de récréation.
Oui, en général, ils sont de surveillance. Hein, donc, il peut arriver qu'ils en profitent quand même pour discuter un petit peu entre eux de choses et d'autres. Mais voilà, hein, ils sont de surveillance et donc c'est dans leur responsabilité de veiller à ce que tout se passe bien. Et voilà.
De faire des allées et venues, d'écouter aussi un peu indiscrètement ce qui peut se passer.
Oh, je crois pas. En tout cas, j'ai pas entendu trop ce genre de choses, à moins qu'il y ait effectivement eu un signalement d'un enfant qui pose problème. Et à ce moment-là, ils vont regarder spécialement ce qui se passe, bien sûr. Mais
la cour de récréation, c'est fait pour étudier les caractères aussi, quand on est enseignant.
Je sais pas tellement. Enfin, moi, il me semble que c'est plutôt dans les temps de classe. Qui sont dans cette étude des caractères, même si je ne sais pas si j'emploierais vraiment cette expression, mais voilà, c'est dans cette vie quotidienne qu'ils ont avec les enfants. Hein, donc, c'est plutôt dans ces temps de classe qui sont en direct dans cette relation avec les enfants. Pendant les temps récréatifs, on voit aussi comment les enfants sont à la recherche des recoins qui, en général, ne sont pas autorisés, mais qui leur permettent d'échapper au regard des adultes et des autres enfants. Pas forcément pour y faire des choses interdites, voire des choses sexuelles comme on nous les a suggérées tout à l'heure, mais aussi pour se mettre un petit peu à l'écart finalement d'une collectivité qui est fatigante, aussi bien pour des adultes que pour des enfants. Et être dans un petit recoin calme, c'est aussi une manière de s'inventer sa petite histoire.
Enfin, du côté des toilettes, dans La guerre des boutons. Autre vieux film culte. Ce monde quand même, clandestinement, des complots.
Pour accommoder nos habits, il faut trouver des sous pour acheter des boutons. Tout le monde est obligé de payer l'impôt 20 balles par semaine.
Oh mais non alors! Il aurait dû le
Et les pauvres alors? Tu fais honte aux pauvres, le braque. C'est pas républicain, ça.
Puisqu'il y en a qu'on prend.
Bon, on va voir ça. Ceux qui peuvent payer autour de moi, ceux qui peuvent pas autour de Tigibus.
Allez, toi.
Et puis d'abord, sortez de là-dedans. Je veux pas que les pauvres s'entassent dans les chiottes puisqu'il n'y a pas de honte. Les pauvres, par là, et les riches, par là. Bon, là ce que je propose, puisque c'est comme ça. Moi, je crois que les sous qu'on a dans notre poche, ça ne doit pas compter. C'est pas des sous pour la bombe, ça. C'est des sous pour la vie ordinaire, quoi. Les sous, ceux qu'on planquera dans notre cabane.
Quelle cabane?
Toi, je t'expliquerai. Les sous à nous, notre trésor. Faudra que ce soit à tout le monde et qu'on les gagne nous-mêmes. Comme ça, ce sera-t-il l'égalité, la crique?
Oui, comme ça, ce sera l'égalité.
Eh ben, je le savais bien, les gars, qu'on y arriverait.
Ce sera-t-il l'égalité? Question posée dans le film d'Yves Robert. Alors, les chefs, d'après vous, ils sont moins chefs plus on grandit en âge, non?
En tout cas, c'est ce que j'ai observé, oui. Et d'autres chercheurs ont observé un peu la même chose. C'est-à-dire que dans les écoles maternelles, donc voilà, 4, 5, 6 ans, 3, 4, 5, les enfants parle beaucoup de chef et de bande. Voilà, c'est moi le chef, c'est pas toi le chef, c'est ma bande, je suis dans la bande d'un tel, etc. Et puis, petit à petit, à l'école élémentaire, ils se lassent un petit peu, finalement, de ces rapports hiérarchiques assez forts qui leur ont quand même permis, justement, pendant cette première enfance, de s'organiser pour jouer ensemble, parce que c'est pas si simple que ça, finalement, hein, de dire qui est-ce qui joue, à quoi on joue, comment on y joue, et comment on amène tel ou tel événement dans ce jeu pour qu'il soit plaisant. Hein,
Alors là, le chef dans le film d'Yves Robert, il ne reste chef que parce qu'il introduit de l'égalité.
C'est ça, voilà. Donc là, on a bien notre modèle démocratique de société qui, finalement, inspire les organisations enfantines. Hein. Les enfants ne sont pas non plus des extraterrestres, ils se nourrissent de ce qui les entoure. Et donc, petit à petit, comprenant et aspirant peut-être justement à de l'égalité, qui n'était sûrement pas la règle pour ce qui est de ces enfants de 1912, l'époque du livre de Louis Pergaud, hein, avant ce film, voilà. Ils aspiraient peut-être justement à de l'égalité et ils cherchaient à à l'instaurer.
C'est embêtant ce que vous dites là, d'un point de vue historique, parce que beaucoup de personnes nous disent la République s'est construite grâce à l'autorité du maître qui diffusait les savoirs. Et vous êtes en train de nous dire qu'en 1912, c'est dans la cour de récréation, dans le désordre de la cour de récréation, dans les complots de la cour de récréation, que se construit l'idée d'égalité.
C'est même un petit peu ce que Arnold van Gennep, un folkloriste qui justement parlait de cet ouvrage de Louis Pergaud en disant que c'était un formidable témoignage de cette époque, de leur époque donc, et qui disait qu'il se demandait si notamment le fait de ne pas dénoncer, de ne pas trahir, dénoncer l'autre, ce qu'on observe souvent encore en classe quand le maître demande « qui a fait ça ?» les enfants ne dénoncent pas. Ce fait-là qu'il observait déjà, Arnold van Gennep, au début du XXe siècle, il se demandait si cette règle-là n'était pas une règle enfantine qui perdurait à l'âge adulte et non pas un apprentissage que les adultes enseignaient aux enfants.
Et donc là, on apprend la rébellion et c'est une vertu politique numéro un. Alors la cour de récréation comme lieu d'apprentissage politique, on s'en méfie toujours du côté des enseignants, et puis les programmes sont si lourds que ça serait une des tendances aujourd'hui. On ne pourrait pas régressir un peu le temps de récréation?
Oui, c'est-à-dire à quoi ça sert la récréation? Est-ce que c'est seulement un moment pour recréer une force de travail, de concentration en classe? Ou est-ce que ça a un rôle social, un rôle dans la construction sociale et culturelle de l'individu? Moi, évidemment, c'est ce que je pense. C'est ce que mes travaux me permettent de penser. On est bien face à deux points de vue éventuellement qui s'opposent, mais heureusement que beaucoup d'enseignants considèrent aussi cette socialisation enfantine comme étant importante.
Alors, dans vos livres, on les retrouvera sur notre site. Il y aura aussi mention sur notre site du nouveau podcast destiné aux familles et aux enfants, Histoire à écouter le soir, au lit. Vous prenez quand même les vertus de l'insoumission. J'allais dire de nouveau le mot rébellion. On va finir en beauté avec zéro de conduite. Vous savez, quand les enfants vont prendre d'assaut un jour de fête de fin d'année, le palais scolaire.
Je suis le nouveau surveillant. Le surveillant Huguet.
22, le pion. Voilà le plan. Le complot est prêt. Il faut sauver. Là, le grenier et les munitions.
Vive la révolte! La liberté ou la mort! Lançons notre drapeau sur le toit du palais! Demain, tous, debout avec nous! En avant!
Merci à Julie Delalande, Audrey Ripouille, la réalisation de cette émission. Franck Olivard, dans Olivard il y a Oli, vous décrypterez ce mystère, a préparé cette émission. Henri Bérec à la technique.